Le 16 septembre 2021, monsieur et madame Clara, qui sont ici présents, nous ont remis à la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne la mule. J'ai pas pris ma souris, c'est une erreur. Donc la mule, la chaussure du pape Pie VII, que Pie VII avait donnée à leur ancêtre Balthazar Clara. Et cette mule, eh bien, dorénavant, vous voyez, elle est exposée dans une très belle vitrine au musée de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors, qui est intervenu dans cette histoire de mule? Ben, le premier, c'est Napoléon Bonaparte, bien sûr. Napoléon Bonaparte, en 1808, le pape ayant refusé d'adhérer au ce qu'on appelait le blocus continental, donc la coalition qui était destinée à empêcher le trafic sur la mer aux bâtiments français, donc par les Anglais, eh bien Napoléon s'empare de Rome, Napoléon Ier s'empare de Rome, par l'intermédiaire du général Miollis, et il assigne le pape à résidence dans son palais du Quirinal que vous avez ici. L'année suivante, Napoléon confisque les états du pape, parce que le pape donc a refusé toujours de rentrer dans la coalition, et le pape répond à cette confiscation par une excommunication. Alors c'est intéressant parce qu'il excommunie tous ceux qui vont prendre part à cette affaire, sauf Napoléon. C'est quand même très diplomatique. Et sur ces entrefaits, eh bien, le pape est arrêté dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809 par le baron général Radet, qui va le conduire, un voyage un peu avec des péripéties, mais en tout cas à Savone, en compagnie de son ministre, le cardinal Pacquin. Et puis en 1812, Napoléon décide de transférer le pape à Fontainebleau. Alors la raison officielle de ce changement, c'est la présence de vaisseaux anglais dans les eaux devant Savone, et qui rendent le séjour du pape, d'après Napoléon, dangereux dans cette ville. En effet, les Anglais qui avaient déjà essayé d'empêcher le pape déjà de couronner Napoléon, ensuite de faire le voyage, de faire le voyage en France en 1804 pour le couronner, auraient mis une frégate anglaise donc en face de Savone, et elle pourrait s'approcher sur des signaux convenus et délivrer le pape de sa captivité. Alors ça c'est une version, mais il en existe une deuxième. Une autre raison, c'est un historien qui s'appelle le comte Joseph Autenin d'Aussonville, qui est un historien et homme politique du XIXe siècle, qui dans un article qu'il a publié dans la Revue des Deux Mondes, dit « c'est pas vrai, c'est pas du tout, cette raison n'est absolument pas vraie, les Anglais, il n'y en a aucune trace, ni dans les archives du Foreign Office, ni dans celle de l'Amirauté, ni même aucune trace de la présence d'un bateau anglais à ce moment-là dans les eaux de Savoie. » Il dit en fait, cette décision, ce serait simplement le désir de Napoléon, qui s'apprêtait à partir en campagne, de trouver à son retour, alors là je le cite, dans sa capitale, l'obstiné pontife qui n'avait pas encore fléchi devant lui et qui serait alors obligé de reconnaître la suprématie du conquérant invincible qui a mis le continent tout entier sous sa loi. Voilà, donc deux versions possibles. Le deuxième protagoniste, eh bien, c'est le pape Pie VII. Pie VII, Barnaba Niccolo Maria Luigi Chiaramonti, il est né à Cesena, dans la province de Forlì, en 1742. Il étudie d'abord à Ravenne, au Collège des Nobles, puis il entre comme novice à l'abbaye bénédictine de Santa Maria dei Monti de Cesena. Il prend l'habit en 1758 sous le nom de frère Gregorio, ordonné prêtre en 1765, il va être ensuite docteur en théologie. Il est nommé prieur de la basilique Saint-Paul-les-Murs à Rome. Il est nommé évêque en 1782, je vais y arriver, cardinal en 1785, et il devient pape sous le nom de Pie VII le 14 mars 1800. Il mourra à Rome en 1825. Ce pape, au moment de l'événement, il est âgé de 70 ans, âge qui est, pour l'époque, très avancé, il faut en tenir compte. Le protagoniste suivant, bien, c'est notre docteur Balthazar Clara. Balthazar est né le 16 mars 1763 à Lens-le-Villard. voit la maison de Lens-le-Villard ici. Il est le fils de Jean-Dominique Clara et de Marie-Élisabeth Turbille. Il est le quatrième enfant du couple. Balthazar fait ses études au collège Lambert à Saint-Jean-de-Maurienne et puis il part ensuite pour Turin étudier la chirurgie. Et il obtient à 23 ans le diplôme de maître chirurgien. C'est le 22 mars 1786. Voici les documents attestant de son diplôme. Et Balthazar Clara va exercer pendant 55 ans dans le canton de Lens-le-Bourg et très occasionnellement dans la région de Suse. En tout cas, il épouse le 16 juin 1795, à Forest, donc près de Suse, Anne-Marie d'Avrieux de Termignon, une jeune femme qui est veuve d'un précédent mariage, au cours duquel elle a déjà eu 10 enfants. Et cette dame a de la constance, elle va en redonner 7 au docteur Balthazar Clara. Et ils habitent à ce moment-là, à Termignon, sur la route royale. Voici et si vous regardez sur la grille du balcon, il y a les initiales B.C. Balthazar Clara. En tout cas, au moment de l'invasion française, Balthazar exerce comme chirurgien à l'hôpital pour les militaires et les cantonniers de Termignon, et il va y résider jusqu'à sa mort le 5 juillet 1839. Il est enterré à Termignon, mais la plaque n'existe plus, on n'a que cette photo qui est pas chue. Retournez voir le cimetière, mais on ne la trouve pas. Voilà, alors pour réaliser ce travail, je me suis appuyé d'abord sur un certain nombre de documents, d'abord sur des documents qui proviennent du docteur Clara ou de sa famille, des lettres, des rapports. Alors, si on peut considérer que ces documents sont fiables en ce qui concerne le fond de l'histoire, pour un historien, ils présentent un petit inconvénient, c'est qu'ils ont tous été écrits postérieurement à l'événement. Il n'y a pas eu de carnet qui a été tenu jour par jour pendant l'événement. Donc ça nous pose toujours un petit problème. Et on peut donc en conséquence imaginer dans les détails quelques arrangements susceptibles de contribuer soit à la légende, soit à l'intérêt de la famille. Et d'ailleurs, c'est ce que confirme son fils, Valentin Clara, lorsqu'il écrit, et je le cite, « Entre le récit de la famille Clara et celui contenu dans la revue des Deux Mondes, il peut et doit se rencontrer quelques légères divergences. Nous croyons devoir en signaler la cause. À peine rentré dans sa famille après son voyage de Fontainebleau, le docteur Clara se mit en devoir de consigner dans un rapport des faits auxquels il avait assisté. Mais la vérité était-elle bonne à dire dans ce moment, soit dans son intérêt, soit dans celui de sa famille ? Ses amis ne le pensèrent pas, et suivant leur conseil, Balthazar Clara se borna à faire lui-même un exposé plus mitigé, au bas duquel il exposa sa signature. Ah, il faut savoir que pendant la Révolution, en tout cas au début, le docteur Clara a eu pas mal de problèmes avec les révolutionnaires, il a été mis sur la liste des immigrés, ce qui l'a obligé à se cacher pendant pas mal de temps, donc je pense que quand il est revenu, il voulait pas fâcher un petit peu les autorités. Je me suis aussi appuyé sur les écrits de nombreux auteurs religieux, comme Jean Belay, Louis-Adolphe Gros, René Miret, et puis Louise Francoz, la nièce de Don Gabet. Là aussi, vous verrez que j'ai mis quelques réticences sur ce qu'elle raconte. Et ça va expliquer, entre autres, les opinions constamment négatives professées contre le capitaine Lagorce, le gendarme qui est responsable de l'expédition, qui va aller chercher le pape à Rome. Alors on lit couramment, religieux doctrinaire, il quitta le froc pendant la Révolution. Alors évidemment, ça, c'était pas très bien admis. À Fontainebleau, il était en instance de divorce pour convoler en deuxième mariage avec la fille du maire. Très dur, il ne pouvait dissimuler ses principes irreligieux et ses antipathies, ou plutôt sa rage contre les ecclésiastiques. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est que tous ces auteurs s'appuient sur le récit du docteur Clara et en se contentant de rajouter quelques détails, mais sans jamais en apporter la preuve. Je me suis aussi intéressé à des auteurs laïcs, entre autres le docteur Marc-Antoine de la Vistrafort, qui était membre de notre société, Françoise Simaz, en Haute-Maurienne, et qui, eux, reconnaissent inversement que si le capitaine donne l'impression au Mont-Cenis d'avoir une attitude au moins cavalière, sinon brutale, de traiter le pape et le docteur Clara, Sa correspondance montre qu'il a fait preuve de quelques sentiments d'humanité envers son auguste prisonnier, mais qu'en fait il était surtout esclave des consignes et des instructions qu'il recevait. Donc vous voyez qu'il y a quelques différences d'opinion et d'intérêt, ce qui va m'amener chaque fois à vous donner les différentes versions qui existent. Le 21 mai 1812, Napoléon adresse depuis Dresde une lettre au prince Borghese, qui est le gouverneur général des départements au-delà des Alpes, dans laquelle il lui annonce qu'il est nécessaire de mettre le pape en sûreté. Il dit « En conséquence, vous chargerez le préfet et le commandant de gendarmerie de faire partir le pape avec ses gens dans deux bonnes voitures. Le pape aura son médecin dans sa voiture, les précautions seront prises pour qu'il traverse Chambéry de nuit, qu'il ne s'arrête qu'au Mont-Cenis, qu'il ne traverse Chambéry et Lyon que de nuit aussi, et qu'il soit ainsi conduit à Fontainebleau. Ayez soin que la voiture du pape soit bonne, que toutes les précautions convenables soient prises. Il ne faut pas que le pape voyage en habits pontificaux, mais seulement en habits ecclésiastiques, et de manière que nulle part, excepté au Mont-Cenis, il ne puisse être reconnu. » La lettre prévoit également que l'archevêque d'Édesse, Mgr Bertalozzi, rejoigne le pape dans sa voiture dès que celui-ci aura dépassé Turin. Alors oui, il ressort quand même de ce document que Napoléon tient à ce que le voyage du pape se fasse dans les meilleures conditions possibles, qu'il soit accompagné des personnes essentielles à son confort, son médecin, un prélat pour lui éviter une trop grande solitude, pendant ce voyage qui, je l'ai calculé avec les routes actuelles, fait quand même 840 km. Donc vous voyez que c'est quand même un grand voyage. Alors la notion de discrétion, elle semble essentielle pour ce voyage. Mais il m'apparaît quand même qu'un cortège composé de deux voitures dont les rideaux sont tirés, escorté de gendarmes, ne peut pas passer inaperçu, sachant qu'il faut quand même changer régulièrement de chevaux, il faut bien se nourrir, que la résistance des hommes à cheval de l'escorte doit quand même avoir des limites. Mais il est sûr qu'il faut, dans la mesure du possible, éviter tout mouvement de population qui pourrait être tenté de libérer le pape, voire d'empêcher une tentative d'enlèvement qui pourrait être faite. Et c'est la raison pour laquelle le général Savary, le ministre de la police, conseille au prince Borghese de faire fermer le passage du Mont-Cenis dès que le pape arrive à Turin. À cet effet, il va envoyer deux gendarmes d'élite, messieurs Allouin et Garbet, qui vont venir sur place. Ils font le voyage, on dit, sans bruit ni uniforme. Ils ignorent même l'objet de leur mission. Ils ont pour consigne donc la plus grande discrétion. Et ils recevront leurs instructions sur place par un homme intelligent et discret envoyé par le prince Borghese. Alors, M. Allouin, il doit se présenter au supérieur du couvent du Mont-Cenis comme un bourgeois ou un marchand voyageant pour ses affaires. Mais à l'heure dite, il doit balayer le Mont-Cenis de tous les voyageurs étrangers, militaires isolés et autres qui pourraient s'y trouver, et de tenir la main la plus rigoureuse à ce qu'aucun voyageur ne remonte du Piémont au Mont-Cenis. M. Garbet, lui, il doit s'occuper du côté de Lens-le-Bourg. Il ne doit laisser monter personne venant de France, ni descendre personne jusqu'à Lens-le-Bourg, et ceci jusqu'à ce qu'il ait de nouveaux ordres. Et ainsi, le couvent du Mont-Cenis sera libre et le pape pourra s'y reposer sans y être connu et sans inconvénient. Donc notre capitaine Lagorce, il arrive à Savone avec un petit détachement de gendarmes selon certains auteurs, avec des officiers de la garde selon d'autres auteurs. Le 9 juin, à l'entrée de la nuit, vers 17h, le pape est informé par M. de Chabrol, que vous avez ici, le préfet de Montenotte, et par le capitaine Lagorce, de son départ immédiat pour la France. M. de Sonville dit que le Saint-Père faisait la sieste, qu'on le réveilla, et que résigné, il ne souleva aucune objection. Alors vous verrez que suivant les documents, M. Lagorce est qualifié du titre de capitaine, de commandant ou de colonel. Alors en fait, ça s'explique parce que tous les récits étant postérieurs, de plusieurs années aux événements, eh bien, entre-temps, le capitaine Lagorce a été récompensé et il a été promu commandant, puis colonel. Dans les ordres qui sont donnés au capitaine Lagorce, il est prévu que le pape ne mette pas ses vêtements pontificaux. Alors certains historiens se contentent de dire qu'on lui fit changer ses vêtements, qui aurait pu le faire reconnaître en route. Jean Belay dit qu'il était habillé en noir, comme un simple prêtre. Monsieur Mayol de Luppé, un autre historien, assure que le pape changea de vêtements, prit un simple chapeau de prêtre et garda une croix pastorale sous son manteau. Monsieur et madame Clara disent que le pape accepta de changer de costume, mais que le capitaine Lagorce et ses messieurs avaient oublié de préparer les vêtements nécessaires pour le déguisement. Et enfin, le préfet de Charolles affirme que le pape se vêtit de sa redingote blanche avec une croix d'évêque et qu'il promit de ne pas descendre pour ne pas être reconnu. Deux auteurs seulement parlent des fameuses mules, des chaussures. Le docteur Lévi-Strafford d'abord, qui dit « Mais aucune chaussure à son pied n'ayant pu être trouvée chez un cordonnier du voisinage, ces mules de satin blanc furent enduites d'encre et la croix d'or brodée qui les ornait avait été décousue. » Monsieur et Madame Clara disent « L'ingénieur en chef qui était dans le secret fut acheté un chapeau et faute de souliers, le préfet et le capitaine de gendarmerie enlevèrent eux-mêmes les croix brodées d'or sur les mules blanches et saisissant une bouteille d'encre, ils l'éteignirent en noir. » On ne parle des mules dans aucun autre récit. En tout cas, le départ se fait le 9 juin vers 10 heures pour Valentin Clara, le fils du docteur Clara. Le même jour, mais vers minuit pour la famille Clara. Dans la matinée du 10 juin pour un auteur qui s'appelle Louis Guillan et dans les ténèbres d'une nuit noire pour le docteur Lévi-Strafford. Le pape sort par une porte dérobée, traverse la rue et gagne une remise de l'autre côté de la rue où l'attendent deux voitures dont les roues ont été enveloppées de linge, les lanternes éteintes et les chevaux déferrés. Il y a une autre version. Monsieur de Sonville dit que le pape dut traverser à pied et en grand mystère les rues de la ville pour monter hors de Savone dans une voiture. En tout cas, le pape monte dans la première voiture avec son médecin personnel, le docteur Carlo Ponta. Son aumônier et son valet de chambre, Ilario Palmieri, montent dans la deuxième. Le capitaine Lagorce ferme les portes à clé. Alors la partie du voyage, première partie du voyage, eh bien, c'est jusqu'au Mont-Cenis. À Savone, ordre a été donné à toute la domesticité papale de ne pas souffler mot du départ de leur maître et de continuer leur service comme à l'ordinaire pendant 6 à 10 jours selon les sources. Le préfet, en grand uniforme, va, selon la coutume, visiter le pape disparu. Les magistrats font mine de lui porter leurs hommages. Les soldats montent la garde au bas du grand escalier, dans les antichambres, dans le jardin, aux portes de la cathédrale. Les domestiques vont au marché, ils font la cuisine, et les appartements restent illuminés la nuit. Pourtant, les habitants de Savone finissent par s'émouvoir de ne plus apercevoir cette ombre blanche qui marchait, s'agenouillait, s'asseyait à sa table de travail. Le secret finit par être dévoilé, selon le docteur Lévi-Strafford, et selon M. Dossonville, les habitants ne soupçonnèrent point un départ qui leur avait été si soigneusement dissimulé. En tout cas, le cortège part, escorté de quelques gendarmes. Alors, il va d'abord rejoindre Capomorone, à 60 km, où on change de chevaux, puis Voltaggio, 20 km plus loin, où le pape souffrant, on doit faire une halte d'une heure, puis Novi, 20 km encore, Turin, 120 km, que l'on traverse sans s'arrêter. À Stupinigi, près de Turin, Mgr Bertalozzi, l'archevêque d'Édesse, monte dans la voiture du pape et il va y rester jusqu'à la fin du voyage. Et enfin, on arrive à Suse, au bout de 22 heures de voyage, ayant parcouru plus de 240 km. Le pape arrive à Suse, accablé de chagrin, de fatigue et de douleur. Pendant la montée du Mont-Cenis, il sent de fréquentes envies d'uriner et souffre cruellement. On fut obligé d'arrêter la voiture plus de 40 fois pour lui donner le temps de satisfaire à ses besoins, mais c'était inutilement et les douleurs augmentaient. En tout cas, le convoi parvient à l'hospice du Mont-Cenis vers 2 à 3 heures du matin. Le pape est dans un état tel que les religieuses croient qu'il allait rendre sa belle âme à Dieu et finir sa douloureuse carrière. Il y est accueilli par le père Dubois, le remplaçant de Dongabay. Dongabay, c'est celui qui est responsable de l'hospice du Mont-Cenis à cette époque, qui va donc le loger dans la chambre qui avait été spécialement faite et réservée pour Napoléon. Alors, Louise Francos, la nièce de Dongabay, prétend que le père Dubois était aussi à Suse auprès de Dongabay qu'il était en train de soigner. Donc elle dit qu'il ne pouvait pas être au Mont-Cenis au moment où le pape est arrivé. Je n'ai pas de preuves ni dans un sens ni dans l'autre. À Suse, à la Poste, vous connaissez l'hôtel de la Poste à Suse, la maîtresse de l'auberge, ayant reconnu le Saint-Père et voyant qu'on l'emmenait du côté du Mont-Cenis, court donc avertir Dongabay, le prieur du Mont-Cenis, qui soigne son asthme à Suse et qui se trouve à ce moment-là au couvent des Capucins. Alors Dongabay décide aussitôt, malgré sa faiblesse et le mauvais temps, de regagner l'hospice. Mais il existe là aussi une autre version qui dit c'est Voguet. Voguet, c'est l'homme d'affaires de Dongabay qui, au moment où il poste une lettre, voit un convoi de plusieurs voitures escortées de gendarmes. On lui aurait dit tout bas, c'est le pape qu'on emmène prisonnier. Il court prévenir Dongabay qui part pour le Mont-Cenis. Alors Dongabay, il va avoir beaucoup de difficultés à faire le voyage jusqu'au Mont-Cenis puisque les gendarmes ont barré la route et ils ne voient pas de raison de le laisser passer. Alors il va discuter, on lui demande qui il est, où il va, et du coup il va arriver à l'hospice avec beaucoup de peine, c'est-à-dire et de retard, soit plus de 2 heures après le pape. Le chanoine Belay lui dit 4 heures. En tout cas, quand il arrive, on lui refuse l'accès au prieuré. Alors, il demande à voir le responsable. Il se retrouve devant le capitaine Lagorce. Et le capitaine Lagorce lui dit « Moi, je ne peux pas vous laisser rentrer, j'ai des ordres. » Alors, Dongabay aurait dit « J'en ai moi aussi, avec des droits supérieurs aux vôtres. L'empereur m'a placé ici à la tête de cette maison. J'entends rester maître chez moi. Colonel, vous direz à Napoléon que Dongabay en a répondu sur sa tête. » En tout cas, il finit par avoir le droit de rentrer, de voir le pape et de commencer à le soigner avec les religieux qui étaient à l'hospice du Mont-Cenis à ce moment-là. En effet, en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il y avait à ce moment-là un moine herboriste et pharmacien à l'hospice du Mont-Cenis qui s'appelait le père Chapuis, et ainsi que deux infirmiers militaires. En tout cas, Dongabay pénètre dans la chambre et se jette aux pieds du Saint-Père, qui se trouve assis dans un fauteuil. Pissette le bénit, le relève, et lui dit en l'embrassant, « Mon fils, vous voyez le vicaire de Jésus-Christ traité comme son divin maître. » Alors que la majorité des témoins parlent du docteur Porta en disant qu'il est un habile praticien, monsieur et madame Clara disent qu'appointé par Napoléon, c'est plutôt un espion qu'un médecin. En tout cas, la présence du docteur Porta au Mont-Cenis, donc le médecin privé de Pissette, est infirmée par Louis Guillan, qui dit que malade, il a été obligé de s'arrêter à Tortone, ce que confirme Jean Belay, qui ajoute qu'en fait, il arriva au Mont-Cenis seulement le 11 juin. Alors le docteur Porta, une fois qu'il est là, pose un diagnostic de strangurie. La strangurie, c'est une difficulté extrême d'uriner caractérisée par une émission goutte à goutte accompagnée de souffrances intenses. Il va essayer de soigner le pape en lui donnant alors un remède qui contient une once de pulpe de casse. La casse, c'est le fruit du canéficier qui contient une pulpe qui a de puissantes propriétés dépuratives et purgatives, couplé à de l'eau de veau comme boisson, et en ayant recours à des fermentations et des émulsions de semences de melon avec un peu de sirop de violette. C'est très poétique, je ne sais pas si c'était très efficace. En tout cas, le traitement ayant semblé apporter quelques petites améliorations, le capitaine Lagorce, qui a des ordres très très stricts, veut reprendre la route. Il tente de faire lever Pissette, mais celui-ci ne tient pas debout, et rapidement, son état s'aggrave à nouveau. Il n'est absolument pas en état de reprendre le voyage. Et le capitaine Lagorce écrit à Turin, au préfet, pour lui dire qu'il voudrait avoir des ordres, il ne sait pas quoi faire. Et il dit « Le repos que le pape a pris n'a pas suffi pour rétablir sa santé. Il est plus mal qu'en arrivant et d'une extrême faiblesse. La fièvre va en augmentant. je ne puis l'impossible, et le pape m'a déclaré qu'il se jetterait sur la route et demanderait à y expirer. Son médecin vient de me faire ses observations judicieuses, je les juge telles parce que je suis témoin oculaire, et bien sûr qu'elles ne sont pas exagérées. Pissette aurait dit devant le gendarme à loin, je ne peux pas partir, si vous voulez me tuer, vous êtes le maître. Don Gabé, indigné, aurait alors demandé au capitaine Lagorce si ses ordres étaient de faire mourir le pape en chemin. Là encore, il y a plusieurs versions pour la suite. Don Gabé, selon certaines sources, le père Dubois, son adjoint, selon d'autres, aurait alors proposé au capitaine de faire monter le médecin de l'hospice, le docteur Clara, qui habite à Lens-le-Bourg, et qui est donc depuis le 15 avril 1812 officier de santé de première classe de toutes les troupes impériales passant à l'hospice du Mont-Cenis. Le capitaine Lagorce refuse. Il n'a pas d'ordre. Il voudrait qu'on lui envoie depuis Turin un homme de l'art, sûr et habile, avec des sondes, des seringues et des bougies. Alors les bougies, je vais vous montrer ce que c'est. Messieurs, imaginez, c'est pour vous. C'est ce qu'on a introduit dans le canal de l'urètre pour le dilater. À l'hospice, c'est la consternation. Les religieux remarquent que l'état du pape s'aggrave, ses cris de douleur retentissent par intervalles. Au début de la nuit, le souverain pontife, qui n'en peut plus, remet son anneau à Mgr Bertazzoli en lui disant « pour mon successeur, pour le futur pape ». Dans la journée du 14 juin, selon la famille Clara, dans celle du 15 juin, selon le docteur Lévi-Strafford, Don Gabet administre au pape le viatique et l'extrême onction. Louis Guillan dit que c'est à la demande du docteur Porta, qui ne consultant que sa foi bien vive et s'appuyant plus encore sur les secours d'en haut que sur sa vieille expérience, fit tout aussitôt administrer le Saint-Père. Le capitaine Lagorce aurait alors demandé une troisième fois un chirurgien de Turin. Au petit matin, arrive un ordre, lui demandant de mettre un lit dans la voiture pour y mettre le pape et de le reprendre la route. Et si le capitaine ne part pas, il sera considéré comme seul responsable et il devra rendre compte de sa conduite. Et là, le capitaine va être courageux puisqu'il va décider de ne pas obéir et de faire venir sur place le docteur Clara. Alors, un cantonnier est envoyé à Lens-le-Bourg. Louise Francoz dit que c'est Don Gabet qui expédie un courrier à Termignon pour en ramener sans le moindre délai le médecin Clara, son ami. Prenez la poste, rendez-vous au Mont-Cenis et muni de vos sondes pour tirer l'urine, c'est un cas très urgent. Alors, monté sur un excellent cheval, le docteur parcourt les trois lieux en moins d'une heure, ce qui prouve bien qu'a priori il était plutôt à Lens-le-Bourg, à Lens-le-Villard qu'à Termignon. Il arrive à l'hospice, où l'attend le père Dubois, qui l'emmène dans la chambre du capitaine Lagorce. Alors ce dernier lui demande déjà s'il a porté ses sondes, afin que l'intervention pratiquée, le convoi, puisse reprendre la route. Mais avant de lui laisser voir le malade, le capitaine tient à le mettre en garde. Il lui dit « Vous allez voir un malade, je ne vous dis pas qui il est, vous le reconnaîtrez, mais si vous venez à le publier, tremblez. Il y va de votre liberté, et peut-être même de votre vie. Mais de telles menaces n'effrayèrent pas le docteur Clara, bien certain qu'il ne viendrait jamais à bout de me faire trahir mon devoir ni ma confiance, écrit-il. » Alors il s'entretient alors avec le docteur Porta, qu'il met au courant de ce qu'il a constaté, et puis ils vont tous les deux voir le malade, et ils tombent d'accord, effectivement, ils font un diagnostic commun, et sur les conséquences que pourrait avoir cette maladie si le docteur Clara, si le pape reprenait la route. Le docteur Clara visite le malade, le reconnaît à son aspect vénérable. Il écrit, il était pâle comme un mourant, il avait la fièvre et souffrait des douleurs continuelles sans pouvoir dormir. Ses urines qui ne coulaient que goutte à goutte étaient rouges, preuve d'une grande inflammation. La vessie n'était pas tendue, ce qui me fit espérer qu'on pourrait peut-être épargner à sa sainteté l'opération douloureuse de la sonde. Les docteurs donc Porta et Clara font la relation de leurs observations au capitaine Lagorce, explique que le traitement préconisé, utiliser les bougies, serait suicidaire. Et alors que le capitaine insiste donc pour ce traitement par la sonde, qui lui permettrait de reprendre le voyage vers Fontainebleau et puis d'exécuter les ordres impérieux qu'il a reçus, le docteur Clara refuse, expliquant que les remèdes que lui proposait permettront une guérison du Saint-Père à condition qu'on y associe le repos, alors que la sonde serait un traitement non seulement cruel, mais qui aggraverait inutilement l'état du malade. Il est presque certain que celui-ci n'aurait pas surmonté cette intervention. La reprise du voyage aurait en plus inéluctablement conduit au décès en route du malade. En tout cas, les arguments finissent par émouvoir le capitaine qui accepte de sursoir au départ. Alors, quel est le traitement qu'a donné, j'ai oublié de passer ça, le docteur Clara ? Alors, après avoir soigneusement examiné le malade, le docteur Clara constate une grande inflammation, mais une absence de rétention. Il n'y a donc pas strangurie, mais ce qu'on a appelé après une cystite aiguë, qu'on appelle maintenant une prostatite. Alors, cette inflammation de la muqueuse vésicale, elle a été provoquée par les mouvements de la voiture, sur des pavés, hein, les routes n'étaient pas bonnes à cette époque, par la fatigue du départ précipité, donc je dis par les secousses, le chaotage continu. Et en fait, il va poser le bon diagnostic, c'était ça la vraie maladie du pape. Et il va donc, en conséquence, refuser d'utiliser la sonde, ce qui va sauver la vie au pape. Alors il commence son traitement par des lavements associés à des cataplasmes, à des fomentations. Alors les fomentations, ce sont des applications externes, humides et chaudes, de linge trempé dans l'eau très chaude, exprimée, recouverte de tissus imperméables, pour en retarder le refroidissement. On est sur des cataplasmes. Elles ont un effet sédatif et adoucissant. Il va y ajouter du laudanum, je vous ai mis le laudanum, des boissons antiphlogistiques, dont des boissons anti-inflammatoires. Et il est vrai que le pape passe une nuit avec moins de souffrance et qu'il va même dormir par moments. Et le matin, les urines coulent plus abondamment. Donc ces médicaments associés au repos donnent une amélioration assez rapide de l'état de santé du pape. Et le 12 juin, le capitaine Lagorce confirme, sans le savoir, ce diagnostic en écrivant « Voici quelle est notre position. Chaque fois que le Saint-Père voyage, il éprouve de fortes rétentions d'urine et dans ces circonstances, l'accès a été plus violent parce que la course a été plus rapide et puis relativement longue. » Bon, le pape se remet à peu près, ce qui fait qu'on envisage de reprendre le voyage. Le capitaine Lagorce l'annonce au docteur Clara, et puis le médecin l'informe que les symptômes peuvent revenir avec la reprise des chaos du voyage. Alors le capitaine lui demande qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution. Le docteur Clara répond deux choses. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait un chirurgien avec éventuellement les instruments de son art pour secourir le pape en cas de besoin. Donc il faut qu'il voyage avec lui. Et puis il faut aménager la voiture en y préparant un lit pour que le pape voyage couché, ce qui amortira quand même les chocs. Alors rapidement, une voiture est préparée. Et là, le capitaine aurait alors exigé du docteur Clara qu'il parte, qu'il poursuive le voyage avec eux. Alors là aussi, il y a plusieurs versions. Louis Francoise assure que c'est Don Gabay qui a fait dresser dans la voiture un espèce de lit garni de coussins, et qui, à force d'insistance, a obtenu du capitaine Lagorce que le docteur Clara accompagne sa sainteté et se place à ses côtés dans la voiture jusqu'à Fontainebleau. Selon la famille Clara, le docteur se trouve lui aussi à ce moment-là prisonnier, et sa famille ne put être avertie de son départ pour Fontainebleau que plusieurs jours après. Le père Jean Belay dit que le docteur Clara a été réquisitionné. Louis Guillan précise que c'est Don Gabay qui prévient la famille. Et Florian Clara, le petit-fils de Balthazar, ajoute « Ce qu'il n'écrit pas, c'est que ce voyage ne lui souriait pas du tout. Au contraire, il aurait voulu pouvoir en être dispensé, surtout, a-t-il dit dans la suite, parce que dans le pays, il y avait une femme prête à accoucher et qu'étant le seul médecin à plusieurs lieux à la ronde, il craignait qu'en son absence, il ne lui arrivât quelques accidents de couche. » Le départ est fixé au lundi 15 juin, à 10h du soir. Le pape écoute la messe dite par Don Gabay, reçoit la communion, le capitaine Lagorce donne des ordres pour que tout soit prêt pour le départ, les gendarmes de la garnison sont à leur poste, les habitants du Mont-Cenis ont été enfermés chez eux, Toutes les lumières sont éteintes, les chevaux sont attelés. Mais il faut habiller le pape. Son valet de chambre, son médecin et Monseigneur Bertalozzi le descendent de son lit si faible que ses jambes ne pouvaient le soutenir. Docteur Clara dit « J'entrais dans la chambre, on lui avait mis ses caleçons, je m'aidais à lui mettre ses bas, tout était empaqueté. » La nuit était très froide et le Saint-Père n'avait pas de gilet. Il fallait descendre dans la rue presque en bras de chemise. À l'instant, je courus prendre chez le Père Dominique un gilet neuf tricoté et j'en habillais le Saint-Père. On lui mit ensuite un frac sur les épaules de couleur grise et c'est dans cet équipage que les deux officiers de la gendarmerie le conduisirent à sa voiture. Alors, il y a une autre version, celle du capitaine Lagorce, qui dit « Le prince Borghese avait omis d'envoyer des vêtements demandés avec insistance, mais Don Gabet avait déjà mis à l'œuvre des religieux qui confectionnèrent les objets de lingerie dont le pape était dépourvu, et celui-ci voulut bien accepter une soutane que lui offrit un moine et que mit à sa taille un gendarme qui était plus ou moins tailleur. » Alors, se situera alors un épisode qui n'est pas raconté par le docteur Clara, mais par son fils Valentin en 1884. Comme le souverain pontife changeait de linge, un riche chapelet, garni de pierres précieuses, s'échappa d'une chemise que déployait le docteur Clara. Le pape dit alors avec un sourire « C'est là aujourd'hui, monsieur le docteur, toute ma richesse. Je suis apostoliquement sans pain, ni argent, ni même deux tuniques. » Vous que le très bon abbé de cette maison vient de me donner pour médecin et pour compagnon de voyage, en ajoutant que vous étiez un bon chrétien dans ce pays, acceptez ce souvenir que je bénis, afin que le ciel vous comble des dons, de ses dons avec votre famille. Bien sûr, Louise Franco se donne une autre version. Elle dit, puis faisant approcher Don Gabet, il le serre sur son cœur en l'embrassant plusieurs fois, le couvre de ses bénédictions et lui met dans la main son chapelet, son seul trésor, en signe d'affectueuse reconnaissance, se réservant de la lui témoigner un jour en l'élevant à la dignité cardinalis. En tout cas, le pape s'allonge dans la voiture, le docteur Porta se met à ses côtés, les deux portières sont fermées à clé, les persiennes du côté du Saint-Père ont été clouées et qui plus est, on l'oblige souvent à baisser les stores. Le voyage reprend, la dernière partie du voyage reprend. Alors, plusieurs auteurs écrivent que le Saint-Père ne fut jamais autorisé à descendre un seul instant de sa voiture pendant les 4 jours que dura le voyage jusqu'à Fontainebleau. Lorsque le service l'exigeait ou que son escorte le soir prenait un repas rapide, on s'arrêtait dans les lieux les moins populeux et on faisait entrer sa voiture dans la remise de la poste dont on fermait la porte avec beaucoup de soin. Alors là encore, j'ai quelques contradictions. Le premier arrêt que j'ai trouvé, eh bien, il se fait à Saint-Julien. À Saint-Julien, en Maurienne, où dans un mauvais cabaret, on prépare du chocolat pour le Saint-Père, qui boit ensuite un verre d'eau fraîche. Le convoi passe à Chambéry vers 10h du soir. À Couze, près des échelles, le docteur Clara remplace dans la voiture son confrère, le docteur Porta. Il y restera jusqu'à la fin du voyage. À Saint-Thibault de Coux, on s'arrête. Madame Vichet, la femme du maître de poste, découvrant la personnalité du voyageur, s'empresse de lui porter un bouillon frais et quelques autres aliments légers. Elle reçoit les larmes aux yeux, la bénédiction du souverain pontife. Le pape descend aussi de sa berline dans un petit village de la Nièvre, qui s'appelle Barbelou, hameau du village de Tronsange. Voilà. Contrariant. Si, c'est bon. Alors, elle raconte, le vendredi 19 juin, arrive une grande berline attelée de 6 chevaux de poste et 2 autres voitures. Un des chevaux avait besoin d'être ferré. 2 officiers de gendarmerie descendent d'un carrosse. Ils viennent ouvrir les portes fermées à clé de la première voiture. Il en descend d'abord un monsieur, puis un ecclésiastique autour duquel chacun s'empresse. Il était d'une pâleur et d'une maigreur extrêmes et paraissait fort âgé et très fatigué. un second ecclésiastique, moins vieux et plus solide, sort du second carrosse. La chaleur était excessive. Près du chemin se trouvait un superbe cerisier, très gros, et chargé de fruits déjà mûrs. Sous son ombre bienfaisante, en quelques minutes, des sièges sont improvisés sur le gazon, et c'est là qu'allèrent s'asseoir les deux ecclésiastiques autour desquels s'empressaient les autres voyageurs. Ce qui paraît logique, hein, faire 4 jours sans descendre, ça me paraissait quand même un petit peu difficile. En tout cas, pendant le voyage, le docteur Clara assiste le pape, fait tout ce qu'il peut pour lui épargner des souffrances. Et il dit « Au moindre signe, je faisais arrêter les chevaux, je le relevais, et pendant qu'il rendait l'urine, j'arrangeais du mieux possible son lit. J'avais soin d'ouvrir les glaces de la voiture pour donner de l'air. Je me munissais d'une bouteille d'eau fraîche que je changeais à tous les postes. Un peu de sirop de violette était la boisson du Saint-Père avec de l'eau. Il y avait dans la voiture une petite bouteille d'alkermès. Alors l'alkermès, vous avez là, c'est une ancienne liqueur agréable et stimulante faite d'extraits alcooliques, de cannelle, de clous de girofle, de vanille, d'eau de rose et de fleurs d'oranger. Et de sirop de sucre coloré avec de la poudre de cochenille. Il dit « Je priais le Saint-Père d'en prendre quelques gouttes, ce qu'il fit, et c'est avec plaisir que cette liqueur bienfaisante lui relevait un peu les forces. » À Bron, lors d'un bref arrêt, une femme jette dans la voiture un bouquet de roses, et parmi les objets précieux que la famille Clara conserve des bontés de Bicêtre, eh bien, se trouve cette enveloppe qui contient les feuilles desséchées d'une rose que pendant le voyage, le Saint-Père avait tenu longtemps dans ses mains en aspirant le parfum. En tout cas, le pape arrive à Fontainebleau le vendredi 19 juin, selon le docteur Clara, aux environs de midi. Chose singulière, le concierge du château, qui n'était point prévenu, fait quelques difficultés avant d'ouvrir les grilles de la cour d'honneur, et dit « mais en plus, les appartements ne sont pas préparés ». Un historien qui s'appelle l'abbé Meunier conteste cette date, en expliquant que le 19 juin, le pape était dans la Nièvre et qu'ayant voyagé 4 jours et demi, il ne pouvait arriver que le 20 juin. Cette version est aussi celle d'un autre historien qui s'appelle le chevalier Artaud et d'un cardinal nommé le cardinal Pacquin. En tout cas, le pape est très fatigué. On le transporte dans sa chambre. Pendant plusieurs semaines, on l'aurait vu gisant sur son lit de douleur. On ne sait pas exactement combien de temps le docteur Clara est resté auprès du pape. Selon son fils aîné Valentin, lui dit qu'il serait resté 2 mois, mais on n'en a pas d'autres renseignements. Lorsque le docteur Clara décide de rentrer en Maurienne, là aussi la date n'est pas connue, il se serait jeté aux pieds de sa sainteté pour recevoir sa bénédiction, puis Bicêtre le relève, lui disant qu'il le voulait dans ses bras et sur son cœur. En tout cas, après son retour à Rome, en 1814, comme quoi il avait été bien soigné, puisqu'il arrive à retourner à Rome 2 ans après, le pape envoie au docteur Clara, je l'ai déjà mis, une médaille en or à son effigie. À voir, cette médaille, elle était remise aux personnes qui s'étaient distinguées pour le dévouement au Saint-Père pendant toute la période de la persécution. C'était vraiment une récompense importante. En 1817, en signe de reconnaissance pour lui avoir sauvé la vie, Bicêtre, après avoir recouvré son siège pontifical, à la suite de la chute de Napoléon, tiendra à recevoir personnellement le docteur Clara. Le docteur Clara recevra également un diplôme de médecin honoraire de sa sainteté et de la cour de Rome, et ce titre lui a été conféré jusqu'à sa mort par le successeur de Bicêtre, le pape Grégoire XVI. Alors certains auteurs disent que ce diplôme accompagnait la médaille en or. Jean Bellay prétend qu'elle fut remise lors de la visite que le docteur Clara fit à Rome pour un pèlerinage, que c'est à l'occasion d'une invitation du pape, selon la famille Clara, qui précise que le pape le reçut avec beaucoup de reconnaissance et d'amitié, ce qui paraît normal. Et alors, c'est lors d'une de ces visites, eh bien, que le pape offre au docteur Clara une de ses mules, une pantoufle donc qu'il portait, la fameuse pantoufle qu'il portait lors de son voyage de Savone à Fontainebleau. Il faut savoir que depuis le Moyen-Âge, une mule offerte par le pape constituait un cadeau honorifique. Et lors des audiences pontificales, je vous rappelle que le pape donnait à baiser une de ses mules aux visiteurs. Plus tard, le pape Grégoire XVI nommera Balthazar Clara chevalier de l'ordre pontifical de Saint Grégoire le Grand. Le docteur Clara mourra dans son pays natal le 5 juillet 1839, après avoir exercé sa profession de médecin pendant 50 ans. Et sur ce, je vous remercie de votre attention.